Merci Nabil. Je donne tout de suite la parole donc à Luis Iskovic. Son titre, ce n'est pas ça.
Oui, justement, parce que vous allez voir qu'il y a des points de croisement, voire des références qui sont les mêmes que celles de mes collègues. Bon, ce n'est pas concerté. Donc, je pars de ceci. On peut considérer l'expression « ce n'est pas ça » comme une formule d'un sujet conclusif, assez général et déterminante des demandes qui s'adressent à l'analyste. Il traduit un moment décisif. C'est un tournant qui révèle une décision. C'est de ne pas rester au constat d'un inatteignable, mais de chercher une issue d'une analyse. Il y a donc l'attente d'une autre chose. Il y a d'autre part le « ce n'est pas ça » de l'analyste, nécessaire à faire sentir au sujet que ses certitudes, croyances, satisfactions prouvent la dimension d'un égarement. Le « ce n'est pas ça » de l'analyste s'accompagne néanmoins de la détermination qu'il existe un horizon possible, laissant ainsi une chance pour la mise en forme du symptôme. Entre les différents écarts ouverts par ces formulations, on pourra décider lesquels sont propres à la névrose de nos jours. Car, c'est un fait, il y a un « ce n'est pas ça » formulés par des sujets qui ne relèvent pas de la névrose. Lacan se réfère à plusieurs reprises à la formulation « ce n'est pas ça ». Ainsi, par rapport à l'efficace de l'interprétation, quand il pose que l'inconscient « ce n'est pas ça » ou « c'est ça » à l'agonie. Aussi, quand il pose qu'il est impossible de retrouver l'inconscient sans y mettre toute la bonne. Donc, le « ce n'est pas ça » est ce qui ouvre au « c'est ça », parole de l'analyste qui sanctionne l'émergence de l'inconscient. On perçoit que la névrose n'existe pas, ou la psychanalyse, que par le fait de la rencontre avec l'analyste. Cela se vérifie encore quand Lacan affirme que depuis Freud, l'hystérie, c'est toujours deux. Ce qui veut dire que l'hystérie pour la psychanalyse est celle qui est prise dans le transfert. Pourquoi depuis Freud, ça a été déjà répondu par mon collègue, c'est lui qui a inventé la névrose des transferts. En réalité, pour qu'il y ait deux, il faut trois. L'hystérique, son inconscient et l'analyste. C'est ce qui fait la différence avec ce que Lacan désigne comme le symptôme pur à propos des Joyce. Ce qui définit le symptôme pur dans ce cas est qu'on peut l'élargir. Et on peut l'élargir à d'autres cas, c'est l'impossibilité d'émouvoir l'inconscient. C'est Lacan qui dit ça. La névrose, donc, ne se caractérise donc pas par des symptômes purs, mais par des symptômes fondamentaux. Les paradigmes étant le doute de l'obsessionnel. Plus compliqué à cerner, c'est le symptôme fondamental d'un hystérie. Mais il y a des indices. Comme disait Lacan, à propos des hystériques, sont celles qui, sur ce qu'il y a du rapport sexuel, disent la vérité. C'est la vérité d'un échec. Ou encore, quand Lacan pose l'hystérie comme dernière réalité perceptible sur ce qu'il en est du rapport sexuel. Il faut donc, dans ce cas, un scénario pour saisir le symptôme fondamental. On peut saisir également le symptôme fondamental dans ce que Lacan désigne comme la politique de l'hystérique. savoir que cela tourne autour de au moins un. Aussi, le Mepassa est ce que Lacan lui-même a proposé comme sous-titre à son séminaire Le Symptôme, pour indiquer les liens qu'un sujet peut avoir avec l'universel, le tout, et où le Mepassa est mis en relation avec le patou de la femme. Il y a dans le Mepassa le corrélat à la castration. Mepassa indique donc déjà l'aberrance avec le tout, qui est la croyance d'un tout absolu de la part du névrosé. Le Mepassa, c'est la formule de l'inadéquation entre l'un qu'on croit être et l'autre, le grand autre qui est notre référence. Entre l'un et l'autre, il y a la négation du fantasme. Les névrosés, en analyse, ce sont ceux qui ne se contentent pas par de ces effets de médiation. C'est le ratage du fantasme, plus exactement, le ratage de l'identification au fantasme. Car c'est dans la mesure où le sujet s'identifie au fantasme fondamental que le désir comme tel prend consistance. Le Mepassa est repris par Lacan dans l'étourdi, où il évoque que c'est ce qui nous met assez au pied du mur de l'impossible, je le cite, que s'évince le Mepassa qui est le vagissement de l'appel au réel. Mepassa, c'est la disjonction chez l'être parlant de son rapport au corps. Soit ce n'est pas la jouissance qu'il faut, point d'achoppement qui n'est pas au niveau de la connaissance. Or, le Mepassa peut faire irruption soudainement ou insidieusement. Cela dépend de ce que Lacan désigne comme l'entrée irruptive de la castration et qui concerne les différentes formes d'échecs dans le rapport du sujet à la jouissance. Il faut y voir la faille dans la correspondance tant cherchée par le névrosé et la rencontre avec le voile du fantasme qui se déchire. Le Mepassa, c'est l'émergence du manque. Il faut y voir l'émergence de la face énigmatique du symptôme, celle qui fait question. C'est l'énigme du symptôme comme existence au symbolique réel et imaginaire. C'est le moment où le symptôme s'impose comme vérité, comme je disais, insidieusement par irruption. Signe d'une impuissance à faire l'un, alors que la jouissance fait signe de l'impossible à être maître de soi-même. Il y a ainsi des aperçus étranges qui font signe de la répétition. La répétition, elle est centrale en ce qui concerne la névrose. L'expérience de ratage se renouvelle et le sujet, après un certain nombre de tours, conclut à l'inadéquation des réponses données dans son existence. Il y a donc un moment de disjonction où la division fait signe. C'est le moment où un aperçu d'une faille radicale s'ouvre pour le sujet et les tentatives de domicile le laissent dans le sans issue. Une angoisse souvent se déclenche, l'intérêt c'est de cerner la solution d'avant ces moments. Donc la névrose est une question, mais sur la base d'une solution, autrement dit le sujet, a forgé une réponse qui peut s'avérer insatisfaisante. On peut s'attarder à la question de savoir si la névrose a des nouveaux visages, si la demande a changé. Question même, il y a une actualité des analysants, il y a à la rigueur une actualité de ce que Lacan, déjà à son époque, donnait comme exemple de recruter par rapport à la clientèle, et il notait déjà une différence. Il disait France, crasse, ça existe de moins en moins. La question donc, me semble-t-il, reste pour l'analyse celle de si l'analyse est une opération ou pas. C'est la thèse que Lacan a toujours maintenue, le savoir opérer. Mes propos pour ce soir ne portent donc pas sur l'inventaire des nouveaux symptômes qui existent, mais qui ne sont pas forcément à corréler à la névrose. Je me réfère par exemple au burn-out, au TOC, aussi particulièrement à toutes les formes d'addiction, qui sont la traduction des manifestations du réel du sujet, qui n'empruntent pas le circuit du refoulement. Il n'est pas exclu que certains d'entre eux, après la rencontre avec un analyste, réussissent la mise en forme d'un symptôme apte pour la poursuite de l'analyse. D'autre part, il y a des termes de la psychanalyse qui ont été détournés, comme la phobie. La demande d'analyse part de quelqu'un qui ne se contente pas de son fantasme. C'est la demande la plus fréquente, à la névrose au moins. Après, c'est vrai que notre époque a généré des nouvelles demandes, qu'on pourrait qualifier comme étant l'échec pour faire mûr à la jouissance. Suivant la définition de la névrose comme évitement de la castration, on s'aperçoit que le trait fondamental, c'est la dérobade. L'obsessionnel se dérobe de ne pas exister. C'est une citation de Lacan. Alors que l'hystérique se dérobe par rapport au sexe, mettant ainsi en évidence comment le refoulement comporte un dérangement pour le sujet. Or, ces traits ont nécessité de se saisir à travers les formations de l'inconscient. Il y a en effet ce qui de l'inconscient relève de la poésie. Car les signes de l'inconscient trouvent leur essence dans le mécanisme de la métaphore. Et ceci trouve sa forme paradigmatique dans la phobie que Lacan désigne comme poésie vivante. Mais, comme l'indique Lacan aussi par rapport à la poésie, comme elle est faite, elle peut se défaire. Ce principe est valable à la fois pour la métaphore et pour le refoulement. Le signe qui est advenu face à la demande de restituer le tout, c'est que le signifiant manque. C'est le seul signe qui n'est pas supporté car il provoque l'angoisse. Le manque de signifiant n'existe que par l'existence de la question. C'est repérable déjà dans la question chez l'enfant qui est la mise à l'écart entre l'objet et ce qui le nomme. C'est l'intervalle impossible à combler qui est à l'origine du « que me veut-il » qui renvoie à « qui suis-je ». C'est ce que a conduit Lacan à articuler l'expression « discours du névrosé ». Il y a un effet, je l'ai déjà dit, la névrose comme question. Sauf qu'il n'est pas le seul à se poser des questions. Ce qui est certain, c'est que la névrose est une question sur la base d'une réponse à l'inexistence du rapport sexuel, soit à propos de l'impossible à écrire sur l'absence du signifiant de la femme et de la mort. C'est ce que le névrosé sait sans le savoir. Et qui s'articule du « il n'y a pas de rapport sexuel ». Également, on peut saisir le symptôme fondamental de la phobie, dans le fait que Lacan s'y réfère comme à la forme la plus radicale de la névrose, au sens où elle est faite pour soutenir des rapports au désir. Je trouve que c'est intéressant, à propos de l'actualité de la névrose, qu'on fasse un retour à la phobie, qui n'a rien à voir avec l'usage fait hors psychanalyse et parfois même dans la psychanalyse. Je reprends une citation de Lacan dans le séminaire Le désir et son interprétation le 10 novembre 59. Il dit ceci: c'est une citation longue mais très intéressante. L'angoisse est déjà une ébauche d'organisation par rapport à cette position d'être sans recours. Pour autant, elle est déjà atteinte, on ne sait pas de quoi. C'est ces moments féconds de la névrose, donc expression que jusque-là il avait réservée à la psychose, c'est ce moment fécond de la névrose que je vise dans le cas du petit Hans, parce que là il s'agit d'une phobie, c'est-à-dire de la forme la plus simple de la névrose, celle où nous pouvons toucher du doigt le caractère de la solution. La phobie, je continue la citation de Lacan, la phobie se constitue dans la nécessité de lutter contre une angoisse plus redoutable encore que la peur, liée, la peur fixée de la phobie. Puis, la construction névrotique s'est définie comme ce dans quoi le sujet s'organise pour subsister comme désir et être abrité du désir de l'autre comme tel. Je cite encore Lacan, cet alibi qui est celui où il se constitue respectivement comme phobique, hystérique, obsessionnel. Donc, il s'agit de chercher à chaque fois l'alibi. La question est qu'est-ce qu'on entend par phobie dans nos jours? Le terme est utilisé de façon plus générale pour indiquer un rapport de limitation dans le mouvement, ce qui est, pour la psychanalyse, est à considérer au mieux comme une inhibition, ce qui serait le cas d'une névrose, mais il peut indiquer juste une barrière mise au réel, ce qui pourrait être un indice de psychose. Dès la psychanalyse, Lacan donne une définition simple, évoquée par Nadine, que je vais la compléter, qui concerne la névrose. C'est le repérage d'un signifiant qui a marqué un point du corps. Puis Lacan dit, la psychanalyse, c'est ce qui reproduit une production de la névrose. Ce dont il s'agit, c'est ce signifiant de le reproduire à partir de ce qui d'abord a été son efflorescence. Faire un modèle de la névrose, c'est en somme l'opération du discours analytique. Ça, c'est la citation de Lacan. Le diagnostic sous transfert implique que les deux, analysants et analystes, soient pris dans le transfert. La question de l'actualité de la névrose porte donc aussi sur la position de l'analyste dans l'actualité. On peut toujours faire correspondre le discours du sujet à tel ou tel autre énoncé par Lacan. Il ne reste pas moins. Une névrose est une hypothèse. Tant qu'on n'a pas attesté la névrose infantile du sujet. C'est ça la limite. Donc au fond, la question porte sur comment on analyse des façons à opérer sur le symptôme. Car il n'existe pas, je crois, le critère formel permettant d'affirmer la névrose. Et je ne crois pas que le critère viendrait de la clinique voronienne. Remarquons en effet qu'encore pour définir la névrose, Lacan fait un retour à la phobie, à celle de Hans, pour montrer que la névrose trouve son rapport dans la névrose infantile. Je le cite, il indique, c'est dans la mesure où la phobie du petit Hans, c'est très précisément à ce nœud triple dont les trois ronds viennent ensemble, c'est en ceci qu'il est névrosé. C'est que coupez-en un, les deux autres tiennent toujours. C'est parce que vous les sachiez ou pas, les deux autres nœuds tiennent ensemble et c'est ça que ça veut dire que vous êtes névrosé. C'est bien à quoi toujours j'ai affirmé ceci, c'est Lacan qui l'affirme, hein, qu'on ne sait pas assez que les névrosés sont incrévables. Mais il faut du temps pour faire vérifier cela. Du temps dans l'analyse et des expériences dans la vie. Cela n'empêche pas l'opération analytique. C'est au fond ce qui compte. Quant au savoir, si nos analyses sont plus accrochées ou pas au discours analytique que dans les époques précédentes, je trouve le débat sans aucun intérêt. En analysant et toujours en analysant.